Nyangi.
Bienvenue, madame, monsieur, à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Insuffisance des médicaments pour traiter les malades souffrant des hépatites virales B et C, dit le directeur du programme national de lutte contre le sida et les hépatites virales. Dans cette édition, on revient sur le Conseil des ministres de cette semaine et ce sera pour parler de la décentralisation. Le détournement des fonds est à l'origine du retard dans l'exécution des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, tronçon Bujumbura-Nyanza-Lac. Déclaration faite ce vendredi par le chef de l'État à Rumonge. Les précisions, c'est dans cette édition mise en onde par Alphonse Koubimana. Bienvenue encore une fois. Les détournements de fonds sont à l'origine du retard dans l'exécution des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Nyanza. Ceci a été déclaré par le chef de l'État Evariste Ndayishimiye ce vendredi à l'occasion de la présentation publique de l'administrateur de la commune de Rumonge. En province à Burunga, le numéro 1 burundais a appelé l'administrateur communal à mettre au premier plan la lutte contre la fraude, obstacle au développement du pays. Et c'est après le discours du gouverneur de Burunga qui sollicitait l'intervention du chef de l'État pour une accélération des travaux. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago.
Dans son mot d'accueil au président de la République, Parfait Moninibuka, gouverneur de Burunga, a exprimé l'impatience des usagers de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Nyanza de voir les travaux de sa réhabilitation se terminer et ainsi en profiter pour se développer et a sollicité l'intervention du président de la République pour une accélération des travaux. S'exprimant à ce sujet, Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a déclaré qu'il s'agit d'un retard consécutif à des détournements constatés et dont les auteurs devraient au préalable être repérés. Après avoir démontré que les fonds d'exécution de ce genre de travaux devraient provenir des caisses de l'État et qu'aussi longtemps que le Burundi devra recourir à des financements extérieurs pour exécuter de tels travaux, la vision d'un Burundi développé en 2060 ne pourra pas être atteinte. Le président de la République a ainsi exhorté l'administrateur communal de Rumonge de prioriser la lutte contre la fraude et le démantèlement des groupes de ceux qui se croient au-dessus de la loi, lui rappelant que personne n'est au-dessus de la loi, pas même le président de la République. Sur le terrain, la réhabilitation des ponts et bus et le dynamitage de certaines zones dominant le lac Tanganyika avancent à pas de tortue sur le tronçon Rumonge-Nyanza au moment où sur le tronçon Rumonge-Gitaza, les travaux se sont arrêtés au niveau de Minago, cela fait déjà 9 mois. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro.
Le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine a analysé différents projets de loi dont celui portant création, mission, organisation et fonctionnement des directions provinciales selon le compte rendu du dit conseil lu par le secrétaire général de l'État. L'État voudrait rapprocher davantage l'administration des citoyens. Suivez à ce propos Jérôme Nyonzima, secrétaire général de l'État.
La réalisation des objectifs de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, passe par 5 piliers, avec au premier plan celui en rapport avec l'engagement de l'État. Par ce pilier, l'État entend améliorer son efficacité par le renforcement de la décentralisation et de la déconcentration administrative favorable à l'élargissement du rôle, des compétences et de la mise en place des démembrements que sont les collectivités locales pour mieux rapprocher l'État et son administration aux citoyens. Dans ce cadre, des avancées peuvent être observées au niveau du cadre légal et réglementaire favorable à la mise en œuvre de la vision, à savoir notamment, premièrement, la loi portant détermination et délimitation des provinces, des communes, des zones, des collines et ou quartiers de la République du Burundi. Deuxièmement, la loi portant organisation de l'administration communale. Troisièmement, la loi portant organisation générale de l'administration publique. Quatrièmement, la loi portant organisation de l'administration provinciale. Cinquièmement, les décrets organisant la primature et les différents ministères. Aussitôt les entités administratives définies, il s'en est suivi la précision des services publics parmi lesquels les services déconcentrés. Ces projets de décret sous analyse portent sur l'organisation des directions provinciales, des ministères et s'inscrivent dans l'esprit et la lettre de la loi portant organisation générale de l'administration publique selon laquelle la création, les missions, l'organisation et le fonctionnement des directions provinciales sont déterminés par décret. Il convient de signaler que la déconcentration au niveau provincial ne concerne que certains ministères. Les ministères en charge de la Défense nationale, en charge de la justice et en charge des affaires étrangères ne sont pas concernés en raison de leur statut. Quant au projet d'ordonnance, il porte sur les structures centrales, à savoir les directions, les services et les cellules des ministères, et les ministères ayant fait objet des décrets qui les organisent. Après analyse, tous ces projets de décrets et d'ordonnances ont été adoptés moyennant quelques corrections de fond comme de forme.
La coopération dans les domaines économiques techniques fait partie des aspects mis en avant dans l'accord de partenariat entre la République du Burundi et celui de l'Angola. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi l'ambassadeur Edouard Habizimana, ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale lors de l'analyse et adoption de cet accord. Certains députés ont exprimé des inquiétudes, soulignant qu'il pourrait être difficile de le concrétiser étant donné que le Burundi ne disposait pas d'ambassade en Angola. Clovis Niyonkuru.
Comme l'a souligné l'ambassadeur Edouard Bizimana, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement, l'accord de coopération entre la République du Burundi et la République d'Angola constitue une contribution majeure au développement du pays. Cette coopération a plusieurs domaines clés, notamment les secteurs économiques, techniques, scientifiques et culturels. Cependant, honorable Denise a exprimé ses inquiétudes concernant l'absence d'une ambassade burundaise en Angola, ce qui pourrait, selon elle, limiter l'efficacité de cette coopération.
Je souhaiterais poser la question au ministre des Affaires étrangères. Est-il possible de signer un accord de coopération avec un pays dans lequel nous ne disposons pas d'ambassade? J'aimerais obtenir des éclaircissements à ce sujet.
À réponse à ces préoccupations, le ministre des Affaires étrangères a tenu à rassurer que cette situation ne constitue à rien un obstacle à la mise en œuvre de l'accord.
L'absence d'une ambassade du Burundi dans un pays ne constitue pas un obstacle à la signature d'un accord. En effet, il existe ce qu'on appelle une représentation résidente et une représentation non résidente. Cela signifie par exemple que notre ambassadeur accrédité en Angola peut résider en Zambie tout en représentant le Burundi en Angola. C'est ce qu'on entend par une représentation non résidente et cela ne pose aucun problème.
Cet accord de coopération et de consultation diplomatique régulière entre les deux pays a été signé à Luanda le 27 avril 2010, puis adopté par l'Assemblée nationale du Burundi.
Parlons santé à présent. Des habitants de différents quartiers proches de la ville de Bujumbura qui se sont fait dépister au site de l'ETS Kamenge saluent l'initiative d'organiser des tests gratuits pour détecter les virus des hépatites B et C. Ils demandent néanmoins qu'un soutien médicament soit aussi accordé aux personnes personnes testées positives à ces maladies. Les médicaments coûtant cher, ont-ils souligné. Parlons toujours de ces hépatites virales. L'abstinence est le seul moyen de se protéger contre ces hépatites virales B et C. En comportement proposé par le Programme national de lutte contre le sida et les hépatites virales dans un atelier média tenu mercredi, même si l'on tranquillise que l'objectif est de disponibiliser les réactifs et nécessaires dans tous les centres de santé, dans le but de favoriser la population, Dr Aimé Ndaïdze, directeur général du Programme national de lutte contre le sida, avoue l'insuffisance des médicaments pouvant traiter les malades.
Aujourd'hui, pour l'hépatite virale B, il existe un traitement. Quand la personne est en indication de traitement, qu'elle prend toute la vie. Et pour l'hépatite virale C, il y a un traitement curatif. Quand la personne vient précocement, elle prend le traitement de 3 mois, 12 semaines. Quand elle vient tardivement, qui a des complications, il n'est pas un traitement de 24 semaines, ça veut dire 6 mois. L'hépatite C a un traitement curatif, mais bien que l'hépatite B a un traitement à vie, il a quand même le vaccin. Aujourd'hui, quand la femme enceinte vient au niveau de la structure de soins, on dépiste aussi l'hépatite virale B à côté de la syphilis et du VIH. Quand la femme a l'hépatite B, il y a un traitement qu'on lui donne pour justement prévenir la transmission de la mère à l'enfant. Et le traitement est donné même à 3 mois après l'accouchement. Vous le savez, à l'époque, on faisait beaucoup plus à Bujumbura seulement. On déplaçait les gens de l'intérieur du pays et les tests, c'était très cher. Mais aujourd'hui, on a pu avoir des cartouches, ce qui fait que maintenant, dans les différentes provinces du pays, il y a au moins un appareil qui permet de faire la charge virale. Et comme ça, c'est de rapprocher les services au niveau de la population. Dans l'avenir, nous comptons augmenter ces tests pour qu'au moins par district sanitaire, on puisse avoir un test pour faire la charge virale. C'est vrai que nous sommes à l'œuvre pour sensibiliser, pour former les prestataires, mais on n'est pas encore à ce niveau, parce que les médicaments sont encore très insignifiants. Mais dans l'avenir, nous voulons que la prise en charge des hépatites virales soit décentralisée jusque dans les centres de santé des plus périphériques, comme on l'a fait pour le VIH, pour arriver à ce que c'est seulement les cas graves qui soient seulement référés chez les spécialistes.
C'est par ici que je mets en point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubguimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.
Revue de la presse.
Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. École d'excellence, élitiste, s'interroge le journal Iwachu. Pour qui il semble loin, le temps où l'école était l'apanage des rejetons gâtés des régnants, des fils et filles de notables, des enfants d'Odu de nantis, bref, des héritiers d'une certaine classe, voire d'une certaine ethnie. Son confrère, n'oublie pas la dimension régionale, les meilleures écoles, celles qui ouvraient les portes de l'université, se concentraient dans une seule province, tandis que le reste du pays devait se contenter d'écoles pédagogiques, artisanales, agricoles ou de simples cycles courts. Le jeu était faussé d'avance, lance-t-il. Afin de corriger ces injustices sociales, l'éditorialiste du journal Iwachu fait remarquer que les partisans du changement, menant tambour battant la révolution, ont initié la création d'écoles d'excellence. Des critères de sélection furent établis, mais voilà le hic, les tricheries n'ont pas tardé. Des parents dénoncent des frustrations, leurs enfants ayant rempli toutes les conditions, obtenu d'excellentes notes, mais se voyant malgré tout refuser l'accès. Pendant ce temps, d'autres, issus de bonnes familles, franchissent la porte sans s'embarrasser de ces critères, constate, non sans regret, son confrère. L'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwachu prie pour qu'il n'y ait pas de retour à la case départ, pour que cette tendance élitiste ne s'installe pas comme une norme. Sinon, avec elle, reviendront son cortège de frustrations ravalées, de colères intériorisées, de rêves brisés, de portes fermées. Son confrère du journal Iwachu conclut en invitant ses lecteurs à ne pas donner raison au journaliste et essayiste français Louis Lazarus lorsqu'il écrivait, je cite, « Toute révolution est commencée par des idéalistes, poursuivie par des démolisseurs et achevée par un tyran ». Fin de citation. Salubrité, mille et une fois, mais pas de suivi, regrette l'hebdomadaire Burundi Echo. En effet, les contrevenants à la réglementation relative à l'hygiène et à la salubrité publique écopent d'une amende allant de 2000 francs burundais à 500 000 francs bourg, selon l'ordonnance du 25 août 2025, précise ce journal, qui souligne que ce n'est pas la première fois que le gouvernement du Burundi lance des initiatives en guise de responsabilisation individuelle et collective de lutte contre l'insalubrité publique. Les plus récents sont entre autres la campagne Zéro Déchet lancée par la Première Dame, les journées dédiées à l'environnement organisées chaque jeudi pour mobiliser la population autour du nettoyage. Malgré toutes ces initiatives, le Burundi est loin d'être le pays propre longtemps rêvé. Cela prouve que le problème réside ailleurs, autre que dans l'adoption des lois. Un changement de mentalité de la population burundaise et la rigueur dans la mise en application de ces lois sont plus que nécessaires pour inverser la tendance, conclut cet hebdomadaire socio-économique.
Revue de la presse.
Stress, insécurité, galère, le poids mental du quotidien burundais, titre un blogueur du collectif Yaga. En effet, les files d'attente interminables, agressions du quotidien et angoisses silencieuses, le Burundais moyen porte un fardeau invisible, celui d'une santé mentale fragilisée. Dans un communiqué récemment publié et repris par ce blogueur, la Tanganyika Foundation, à laquelle appartient Tanganyika Care Hospital, annonçait des consultations gratuites en santé mentale ouvertes au grand public. Sur l'affiche de cette campagne, poursuit ce blogueur, étaient listées plusieurs catégories de troubles mentaux qui seraient prises en charge. À la lecture de cette longue liste, ce blogueur du collectif Yaga écrit que sa conclusion est sans équivoque. Nous avons besoin d'une campagne collective de consultation en santé mentale, car ces signes, ces comportements ne sont pas exceptionnels. Ils sont devenus notre quotidien. Ils sont devenus nous. Les réfugiés burundais privés de salles de classe et de lieux de culte, rapporte Net Press, qui précise qu'au moment où l'année scolaire 2025-2026 démarre, l'on assiste à la fermeture de plus de 10 établissements situés tous dans les camps de réfugiés d'Ondota et de Nyarugusu dans la région tanzanienne de Kigoma. Dans cette partie de la Tanzanie, il n'y a pas que des écoles qui sont ciblées, il y a également les églises, poursuit ce confrère. Sur place, écrit toujours ce quotidien en ligne, la tendance est de se plaindre que les églises sont devenues un peu trop nombreuses et que les chrétiens pourraient se choisir une autre église au hasard ou prier, d'après des informations émanant de l'administration. Fin de cette revue de presse réalisée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine.
Revue de la presse.